Salut à tous. Backseat, c'est LE talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le club Backseat pour 15 euros par mois en cliquant sur le lien dans la description.
Bonsoir Elsa Faucillon. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Vous siégez à l'Assemblée nationale depuis 2017.
Oui.
On vous avait reçu il y a 8 mois. C'est sur ça. Le plateau de Backseat, vous étiez déjà venu à l'époque.
Vous m'aviez fait dire des trucs bizarres.
On parlait des européennes, personne parlait de dissolution. Bon, entre temps, il s'est passé des dingues et vous avez été réélu en juin dernier. Comment est-ce que vous sentez cette nouvelle Assemblée nationale maintenant que ça fait quelques mois qu'elle est pratiquée et Michel Barnier, ça fait pas très longtemps qu'il est Premier ministre.
Bah forcément, mais ça, je pense que c'est à la tête de tout le monde, c'est que c'est instable, ouais. Profondément, c'est tendu tout le temps. Encore plus, je trouve, que dans la séquence 2022-2024, qui déjà subissait quand même beaucoup, beaucoup de tensions. Et puis là, forcément, je sors d'hémicycle pour y retourner après le plateau, en plein dans la journée d'initiative parlementaire de la France Insoumise sur l'abrogation de la réforme des retraites. Donc vous vous doutez que c'est tension maximum, avec... pour une fois depuis le début de cette législature, une plutôt forte présence du bloc central, donc de la Macronie, qui jusque-là a quand même plutôt brillé par son absence, en particulier pendant le budget.
Raison pour laquelle la gauche a réussi à beaucoup amender ce budget.
Et ça continue. Mardi soir, j'étais en commission des lois, par exemple, sur un texte qui est porté, normalement signé par Gabriel Attal, sur la justice des mineurs. Il n'était pas présent. Et on a fait tomber la moitié du texte parce que la Macronie n'était pas là pour soutenir le texte de leur ancien Premier ministre.
Comment vous expliquez cette absence ?
Mais non,
parce qu'au moment où il s'agit de voter, ils viennent pour annuler tout le travail qui a été fait par la
gauche.
Les
malins.
Comment vous expliquez cette absence ? Est-ce qu'elle est tactique, stratégique ? Est-ce que c'est juste des gens qui en ont ras-le-bol aussi ?
Il y a un peu de tout. Alors, chez eux, forcément, ça tangue beaucoup, c'est évident. On ne les sent pas tout à fait, en tout cas pas tous, totalement en phase avec un Retailleau, mais même un Barnier, parce que chez eux, parfois, ils ont besoin de se prouver ou de se convaincre qu'ils ont encore un peu de gauche en eux. Ça leur arrive quand même régulièrement de devoir prouver ça. Mais
comme
je dirais...
Roussel, j'ai
dit aujourd'hui, je ne dis pas de dinguerie. Donc,
c'est dommage.
Je me tiens. Non. Mais surtout, je trouve qu'ils ont complètement accepté finalement la dépossession du Parlement. Elle est totalement organisée aujourd'hui. C'est à la fois le président de la République, mais aussi l'exécutif qui ont la main. Et en fait, ils ont à la fois renoncé et organisé eux-mêmes cette dépossession. Et donc, en fait, elle s'incarne par le fait qu'ils viennent plus. Ils ne sont pas là. Et ils laissent passer des choses en sachant, y compris, que de toute façon, elles pourront être... soit par ordonnance, soit par 49-3, soit parce que le gouvernement va tomber de toute façon, que ces choses seront balayées.
Et l'idée, c'est aussi de montrer que la gauche, quand elle vote des trucs, elle vote des nouveaux impôts, c'est n'importe quoi. Et après, ils vont arriver, ils vont rétablir le calme, quoi.
Ouais, alors sur ça, peut-être, mais je trouve que ça a une forme d'inefficacité, par exemple, sur le budget.
Voire de compromettre la gauche avec l'extrême droite en disant, regardez, la gauche et l'extrême droite étaient là, ils ont voté n'importe quoi, ils ont voté ensemble. Et nous, derrière, on va...
Je pense qu'on est un peu au bout de ça et que ça ne fonctionne plus. Moi, ce que je remarque quand même sur la partie budget, notamment... c'est que le NFP a pu plutôt montrer sa solidité sur la question.
Et son sérieux aussi.
Son sérieux, en engrangeant en fait des victoires par le vote, tout en étant lucide sur la possible issue, mais en tout cas en étant très présent, en présentant des choses en commun. Et je trouve que ce qui était assez agréable et qu'on n'a pas toujours réussi à faire et qui dit évidemment pas toute la suite, c'est qu'on a su montrer à la fois notre diversité et notre cohérence. Et je pense que c'est essentiel, moi, pour l'unité. Et donc, moi, en tout cas, sur cette séquence-là, je trouve qu'on a nous-mêmes, en tout cas, en tiré des leçons et des leçons positives. Et puis, je remarque que les Français, même si ce n'est pas suffisant, mais jugent que le NFP est la première force d'opposition à l'Assemblée nationale,
oui, c'est nouveau.
Ce qui n'était pas le cas en 2022. Ouais. Et moi, ça a plutôt tendance, en tout cas, à m'encourager et à encourager ce qu'on a commencer à construire là et qu'il ne faudrait pas défaire.
Encore faut-il que l'NFP reste unie et on en parlera. Léa.
Du coup, vous vous inscrivez quand même dans un moment, disons, assez particulier de la Ve République, inédit, pour ainsi dire. quand on est député, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, en fait. On veut construire des choses, améliorer, j'espère, la vie des gens. Enfin, j'imagine que c'est quand même un objectif que vous essayez de viser. Cette instabilité, le fait d'avoir dû repartir en campagne, d'avoir dû jeter même des textes sur lesquels vous avez certainement travaillé pendant des mois, voire des années, même parfois de manière transpartisane. Ouais. Comment vous la vivez, vous, professionnellement, d'une part, mais aussi personnellement, je veux dire, dans votre engagement politique? Est-ce que je trouverais ça très frustrant, d'une part, mais je ne vais pas répondre à votre place, évidemment, mais dans une certaine mesure aussi un peu décourageant. Enfin, est-ce que vous croyez encore aujourd'hui en la politique?
En fait, c'est rageant. Bon, y a évidemment le côté personnel. Moi, le soir de la dissolution, il y a un truc parfois... Vous avez des moments égoïstes. Hein. J'ai pensé à tous les trucs qui s'arrêtaient. J'étais en pleine mission d'information. On allait rendre des recommandations pour les mineurs non accompagnés. Et j'étais plutôt fière du boulot fait. Et je me disais que ça allait pouvoir être utile. Et tout ça, c'est à la poubelle. C'est 5 mois de boulot qui vont à la poubelle. Ça, c'est un peu pour incarner les choses. Mais en réalité, ce qui, je dirais, me met le plus en rage, et c'était encore vrai aujourd'hui, mais c'était vrai aussi pendant le budget, quand je regardais Attal et ses copains... qui vivait ça avec une nonchalance absolue. J'aimerais en avoir que du mépris, mais ça suscite beaucoup de colère, quoi. C'est très rageant, et c'est très rageant aussi parce que quand vous êtes député, il y a à la fois, je disais, un truc égoïste parce que vous bossez, vous y mettez du temps, de l'énergie, mais vous avez aussi la conscience qui est rappelée régulièrement par votre présence sur le terrain, par les habitants qui viennent vous voir, etc., qui sont mobilisés, qui ont de l'attente, qui ont beaucoup espéré. Et en fait, vous tentez en permanence de dégager de l'espoir. C'est un peu l'idée. En tout cas, c'est ce que je me fixe. Et d'autant plus, je crois, quand on s'inscrit à gauche, c'est essayer de créer cette espérance. Et qu'en fait, il y a plein de moments, vous avez beau mettre toute cette énergie, y compris parfois être bon du point de vue de l'unité, de la cohérence. Des trucs. Et en vrai, il y a un moment, vous vous dites, mais il casse tellement tout. Comment on fait? Et parfois, en fait, il y a même une forme chez nous, ça peut nous guetter, de désespoir qui s'installe à l'idée, c'est quoi les voies de passage encore? Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup bossé entre 2022 et 2024 avec des députés à l'époque NUPES sur la question de la 6e République. Parce que franchement, il y a un moment, en fait, c'est juste plus possible. Les crises politiques se succèdent, elles sont entretenues par ceux qui sont au pouvoir, on est en pleine crise de régime. Et aujourd'hui, très honnêtement, je ne suis pas la première en permanence à vouloir rajouter de la crise à la crise, mais simplement, même l'élection d'un nouveau président de la République, et je pense que c'est une des solutions, à mon sens, ne suffit pas complètement à régler la question.
Et donc
il faut que les citoyens, à la fois, puissent décider, évidemment, d'un nouveau programme, mais aussi de nouvelles institutions.
Et donc, est-ce
quoi.
Qu'il faut une motion de censure ?
Une motion de censure, c'est évident. Pour moi, veux dire, de toute façon, on ne peut pas ne pas la déposer après un 49-3 sur un texte où on a apporté des modifications importantes, où dans le pays, il y a des demandes importantes qui sont exprimées lors des législatives. Donc ça, c'est impossible. On voit bien que de toute façon, le gouvernement Barnier en fait qu'à sa tête et qu'il est aujourd'hui encore présent uniquement parce qu'il répond aux injonctions du Rassemblement national. Donc de toute façon, ça c'est sûr. Mais il y a aussi la question qui est posée, et d'ailleurs pas que par la gauche, j'en étais un peu surprise, mais de la démission d'Emmanuel Macron. Et je le dis, je continuerai de porter avec d'autres l'idée que maintenant, les pouvoirs doivent être étendus pour les citoyens. Sinon, on ne s'en sort pas, honnêtement.
Mais il doit démissionner, Macron, selon vous?
En tout cas, je pense que la question, elle est largement posée, ouais. Dire Macron démission, j'ai l'impression qu'il y a une forme de d'inefficacité.
C'est un super slogan, ce
Truc. Hein, mais un peu aussi d'inefficacité à le dire. En tout cas, c'est sur lui que la responsabilité est largement portée, et pas simplement en termes d'analyse propre. Mais moi, je me souviens, au lendemain des législatives, les gens qui nous parlaient, ils disaient « mais il faut que ça s'arrête, Macron, il doit partir ». Parce qu'ils ont bien identifié que c'est lui qui tient le pouvoir, que c'est lui qui fait n'importe quoi.
Mais donc, outre la démission, est-ce qu'il faut réfléchir, une convention citoyenne pour la démocratie, pour
en tout cas, démocratique,
une assemblée constituante.
Une assemblée constituante.
Ça, à chaque fois, fait partie des programmes qu'on a défendus lors des élections présidentielles. C'est pour ça qu'on avait engagé ce travail-là entre 2022 et 2024, parce qu'on pensait que, plus qu'un slogan ou qu'une ligne dans le programme, il y avait besoin qu'on rentre en discussion avec les citoyens du pays là-dessus. Que ce ne soit pas juste parce que, pour ceux, peut-être pas beaucoup dans la salle, mais qui ont vécu par exemple la campagne de 2012 avec Jean-Luc Mélenchon, qui portait vraiment 6e République. Et je me souviens, les gens disaient 6e République, mais c'est quoi, etc. On avait fait beaucoup de campagnes sur cette question, sur la révolution citoyenne. Et en vrai, je me rendais compte que les gens, ça leur parlait, ça a évoqué quelque chose du point de vue démocratique, mais qu'en vrai, ils ne savaient pas par quelle boule prendre. Mmh. Et moi, je crois qu'on a besoin, en tout cas dans les campagnes politiques, dans le débat public, de diffuser des discussions. Par exemple, on avait commencé, nous, est-ce qu'on a besoin d'un président de la République ?
Voilà, sur le Vous devriez organiser une grande marche.
Non, mais c'est une bonne porte d'entrée, en effet, dans la discussion, que de commencer par le présidentialisme. Vous voyez bien qu'il y a un problème avec Macron. Et il y a des gens dans le chat qui demandaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là aujourd'hui ? Ça vote sur les retraites. Faudrait raconter peut-être aujourd'hui comment ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, il y a un blocage. Il y a un blocage qui a tout d'une initiative très antidémocratique. Les députés de ce qu'on a convenu d'appeler en ce moment le bloc central, mais c'est surtout les macronistes qui défendent, en fait, leur bilan, leur travail, leur réforme des retraites, ont déposé une quantité hallucinante d'amendements.
Plus de 1000.
800, 1000, bon, plus de 1000.
C'est ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire.
L'obstruction parlementaire, mais cette fois-ci, pour une niche parlementaire, c'est que là, les discussions doivent s'arrêter à minuit. Donc, ils jouent la montre avec des... Et j'entendais Prisca Thévenot à la radio sur France Info tout à l'heure nous expliquer que non, nous défendons nos... En fait, l'hypocrisie. En fait, non, nous défendons nos amendements, car c'est la démocratie, etc. Or, tous les amendements, j'ai vu Clémence Guettet on a publié un certain nombre, c'est 40 amendements de suite pour modifier le nom en réforme pour mettre en péril notre système de retraite, réforme de
gauche. On a passé la matinée sur des amendements sur le titre.
C'est ça. Et donc c'est une hypocrisie totale que de dire on discute. Donc il y a un foutage de gueule. Est-ce que vous avez l'impression que ce foutage de gueule... les journalistes politiques le voient, encore ceux qui ont envie de le voir et qui ont envie d'en parler. Mais est-ce que vous pensez que le tout venant, l'électeur, voit ça et parce que c'est dur, on ne regarde pas ce qui se passe à l'Assemblée, quoi.
Ça va être notre travail de le mettre en lumière. Ça, toujours, ce qui se passe dans l'hémicycle, le but, c'est quand même que ça ne reste pas le huis clos de l'Assemblée et qu'on en fasse un récit politique, des batailles politiques. Donc,
le boulot du député, c'est aussi de
rendre compte. Voilà, ça fait partie, en tout cas, c'est une des missions que je me fixe. Donc oui, il faudra rendre compte. Moi, non seulement j'espère, mais je suis à peu près sûre, en tout cas, que ce mépris, cette arrogance... je reviendrai sur le terme d'hypocrisie, mais je peux l'adopter aussi, est visible. D'ailleurs, les Français, aux élections législatives, ils ne s'y sont pas trompés. C'est quand même beaucoup sur le 16 mars 2023... le 49-3 sur la réforme des retraites, que le résultat de la législative se fait et que la Macronie s'effondre et aux européennes et aux législatives. Donc moi, je pense qu'il n'y a ni oubli ni pardon sur ce 49-3 de la réforme des retraites par les Français. Pour ceux qui ont du doute sur est-ce que la lutte des classes est encore vivace ou pas, il suffit de passer la journée dans l'hémicycle. Et effectivement... je vais retourner dans l'hémicycle, mais on a compris en tout cas, parce qu'il faut assurer cette présence et qu'elle est importante. Là, on est en pause. Mais en tout cas, c'est sûr que les macronistes ont décidé de jouer la montre jusqu'au bout pour éviter le vote.
C'est minuit. En l'occurrence, c'est minuit. Une niche parlementaire s'arrête à minuit. C'est à minuit. Le texte n'est pas voté. C'est terminé.
Et ça ne peut pas revenir. Donc, il faudra trouver d'autres voies.
Il peut revenir dans une niche quand même.
Ouais, il peut revenir dans une niche.
Dans une autre niche d'un autre groupe parlementaire.
Voilà, il faut qu'un autre groupe accepte de le reprendre.
Peuvent se faire la passe.
Exactement.
Le texte va venir en l'état.
En l'état, il ne repart pas de zéro.
Non,
il est réinscrit à l'ordre du jour, en fait.
Exactement.
Du jour, mais en l'état. Ouais.
Exactement. Et donc, il y aura d'autres niches parlementaires, effectivement. Et de toute façon, c'était la mission qu'on s'était fixée, y compris si ça passait, que ça puisse ensuite passer par un groupe de gauche au Sénat dans le cadre, pareil, d'une niche parlementaire, puis que ça revienne dans une autre niche parlementaire. Donc, on avait un peu tracé le chemin. Je veux juste revenir sur le terme d'hypocrisie.
La prochaine niche, c'est les socialistes.
Ouais, mais je sais pas si on n'est pas déjà hors délai. Je sais plus
si on est hors délai. Ils ont déjà annoncé les différentes propositions de loi.
Donc ça
qui
peut pas être eux. Mais sur le terme d'hypocrisie, parce que parfois, moi, je me demande, en fait, ça m'est arrivé des fois, un débat avec Prisca Thévenot où elle mentait éhontément. Parce que moi, j'essaye toujours de trouver un peu la sincérité chez l'adversaire politique, de voir ce qui l'anime. Enfin, ça m'intéresse pour mener le débat. Je trouve ça intéressant. On peut pas préjuger qu'il n'y a pas de sincérité dans l'engagement politique de gens qui passent parfois des heures et des heures incroyables. Mais en fait, y a des fois, j'ai un peu du mal à trouver ça, tellement, en fait, c'est le renversement des mots. On a souvent cité le langage orwellien, la guerre, c'est la paix, etc. Mais en fait, il fonctionne par antiphrase tout le temps. C'est la post-vérité permanente. Et en fait, ça aussi, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Et c'est aussi ce qui fait, en réalité, que toute la parole politique, à la fin, n'a plus de sens. Et que l'éloignement vis-à-vis la démocratie et de sa capacité à gérer le conflit, alors elle est complètement minimisée par les gens. Et ça devient terrible ensuite pour pouvoir inscrire les gens dans un débat eux-mêmes démocratique. Et ça, ça conduit généralement la démocratie, on la défend pour pouvoir aussi défendre la paix civile. Et évidemment, c'est extrêmement inquiétant, en tout cas de la manière dont les citoyens vont pouvoir eux-mêmes défendre leurs intérêts, gérer le conflit. Mais c'est aussi vrai pour les parlementaires à l'Assemblée.
On voulait vous parler aussi de l'état de la gauche, puisque le NFP, Nouveau Front Populaire, par rapport à la NUPES, il y a eu une forme de rééquilibrage, dans le sens où il y a à peu près le même nombre de députés insoumis, mais il y a deux fois plus de socialistes. Comment est-ce que vous trouvez que vit cette union avec ces deux blocs qui ont vachement tendance à s'envoyer des fions par médias interposés ces derniers temps?
C'est très bizarre comme situation, parce que ce n'est pas exactement celle qu'on vit à l'Assemblée. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les gens, moi quand j'en discute dans ma circonscription, j'ai plutôt l'impression que les gens voient ce qui se passe à l'Assemblée que ce qui se voit par médias interposés.
Est-ce que vous voudriez dire, ce avec quoi je serais d'accord, que ces tensions sont aussi largement entretenues par les grands médias qui invitent, en sachant qui va dire du mal des insoumis, en général, et qui vont inviter les bonnes personnes au PS pour dire du mal des insoumis, alors que le travail se passe bien à l'Assemblée et qu'il y a un accord programmatique, quoi. Mais on a l'impression tous les jours que c'est la fin du NFP chaque jour.
Alors, c'était déjà vrai pour la NUPES. Le problème, c'est que ça a fini par arriver. Donc, je reste vigilante, évidemment.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
On voit bien quand même que déjà, et ça fait un peu un moment que les agendas vers la présidentielle se préparent, se précisent. Et que, évidemment, dans ces moments-là, quand on n'est pas dans le cadre d'une construction commune, alors les divisions s'aiguisent. Et oui, c'est clair qu'on peut voir, on pourrait voir en tout cas un scénario de deux gauches irréconciliables qui iraient s'affronter à la présidentielle. Je ne suis pas dans le déni à dire que ça, ce n'est pas vrai. Il y a des agendas présidentiels, il y a de l'affrontement, il y a du rapport de force, c'est évident. Mais dans le même temps, ce que je constate aussi, c'est que à l'Assemblée, ça se passe bien. On a su faire démonstration pendant le budget, je le redis, plutôt de force commune. C'est vrai aussi dans notre travail dans les commissions. La difficulté en vrai, c'est que de la même manière que la NUPES ne pouvait pas rester juste à l'Assemblée, on ne peut pas faire l'union juste à l'Assemblée. Ce qui manque en réalité, pour moi en tout cas, et y compris pour que les appareils politiques soient redevables de ça, c'est que ça se construise, que cette unité, elle se construise localement et qu'elle se structure. Mais et c'est ce qui
personne
manque.
Personne n'en a envie.
Mais il y a les municipales, ça c'est un bon test.
Emilio.
Ou pas.
Mais justement, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que une potentielle motion de censure de Michel Barnier, ça peut aussi aider à resserrer les rangs au sein du NFP? Parce qu'il y a toujours l'option Lucie Castet, même si on sent bien que les socialistes aimeraient la larguer en race campagne. Est-ce que vous pensez que la potentielle motion de censure de Michel Barnier peut resserrer ses liens?
Je ne sais pas si ça les resserre, mais en tout cas, ça nous tient, je pense. ça nous tient dans l'idée... S'il y a une motion de censure, je cherchais, ce n'est pas une dissolution, que le gouvernement tombe, le NFP est dans une situation où il est obligé de pouvoir faire une proposition. Et donc,
il faudrait que ça aille plus vite que la dernière fois.
Pas très bien, les gars.
Je crois que ça nous place, peut-être pas surtout, mais en tout cas, j'ai l'impression là-dessus qu'on est plutôt animé par un sens des responsabilités de ce point de vue-là. Celui peut-être qui manque, en tout cas à mes yeux, dans le sens des responsabilités, c'est celui qui est à l'aune de la création du NFP au moment des législatives. C'est de voir l'urgence, c'est de voir le Rassemblement national qui peut gouverner et de dire, en gros, on ne fait pas les cons, on y va parce que c'est trop grave. Et moi, je ne vois pas ce qui annule ça aujourd'hui. Il n'y a rien qui annule les conditions... pour qu'on continue à être unis et à y aller ensemble.
J'ai l'impression qu'il y a une certaine partie de la bourgeoisie progressiste, y compris dans les médias, qui a du mal à faire le deuil du fait que le PS était leur parti, le parti qui devait naturellement dominer la gauche, gouverner pour les intérêts aussi d'une certaine bourgeoisie qui veut que les affaires économiques continuent telles quelles, que l'intégration européenne, etc. Enfin, avec un certain programme, notamment économique et surtout économique en fait, et ils ont du mal à faire le deuil d'un PS, voilà, qui serait. Et donc, du coup, ça tape très fort là-dessus, en provoquant la rupture, en voulant provoquer la rupture. Mais est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous parliez de lutte de classe un petit peu avant, donc on peut être au moins d'accord là-dessus. Le PS est traversé par ces forces-là, et que c'est ça qui se joue aussi, quoi. C'est-à-dire que la fragilité, elle est là. Est-ce que le PS reste, ou est-ce qu'ils arrivent à casser le PS?
Oui, alors je ne mettrai pas... Il y a des choses que avec lesquelles je suis d'accord dans ce que vous dites, mais...
Déjà, des choses que vous avez compris?
Oui.
C'est incompréhensible.
Non, je t'écoute.
Maintenant qu'il s'est coupé les cheveux, je le comprends encore mieux.
C'est l'effet moustache, ça.
C'est ça. D'abord, tout le NFP ne repose pas sur les débats qui traversent le PS. Ce ne serait pas juste de dire ça. On est tous traversés dans nos organisations politiques par des débats, par des nuances, voire des divergences, et donc sur la question de l'unité, mais sur d'autres questions. Donc on ne peut pas faire porter la responsabilité uniquement sur le PS, même si en ce moment, j'entends bien que c'est peut-être plus visible et que les déclarations de Hollande n'aident vraiment pas à penser que la responsabilité ne vient pas de ce côté-là. Ensuite, dans la question que vous posez, je ne sais pas si ça répond complètement, mais moi, ce que je crois, c'est que si on veut l'emporter, si on veut changer la vie, qui était... sur les visuels là, de l'AFI pour reprendre Mitterrand, on fait des crossovers incroyables. En tout cas, si on veut pouvoir transformer et si on veut empêcher le RN de prendre le pouvoir, alors il faut faire en sorte que ceux qui s'identifient très fort à la lutte des classes, comme ceux pour qui, en réalité, le PS représente une certaine partie du pays, pour qui la radicalité peut être synonyme aussi de marginalisation, etc. On est bien obligé de tenter d'unir tout ça.
Ah oui,
je ne dis pas que
sûr,
c'est simple,
bien sûr.
Mais en tout cas, si on pense qu'on peut se passer de la capacité de toute la gauche à rayonner pour aller chercher tout le monde, alors je crains qu'on renonce à gagner.
Il y a des grosses divergences stratégiques, pardon, excuse-moi.
Vas-y, après, il faudra qu'on enchaîne pour parler
Mais justement, c'est le débat qui traverse absolument la gauche, que les médias résument caricaturalement entre d'un côté Jean-Luc Mélenchon et de l'autre François Ruffin. Mais sur comment parler à tout le monde, François Ruffin, il dit qu'il faut réconcilier les bourgs et les tours. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis considèrent davantage qu'il faut aller chercher chez les abstentionnistes. Vous vous positionnez où dans ce débat qui est résumé de façon très grossière et caricaturale?
Je vais dire que c'est un faux débat. Hein. Pour plaire à tout le monde, voilà.
Vous avez en politique, vous on s'adresse. Enfin, moi, je suis députée, je m'adresse à tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas été élue par tout le monde, mais je m'adresse à tout le monde dans ma circonscription. Je suis la députée de tout le monde. Donc après, moi, ce qui m'agace en fait, c'est que j'ai l'impression que plutôt que de parler de la vie des gens, je dis pas que les débats stratégiques sont pas importants. Ils sont très décisifs. Quand on fait de la politique, on peut pas s'extraire ni de la tactique ni de la stratégie. C'est décisif. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'on se paraphrase tout le temps. Et que, en fait, plutôt que de s'adresser aux gens, on parle d'eux-mêmes pour parler de quel électorat on va aller chercher. Mais ça, franchement, faisons des discussions
entre
avec
militants.
Des politistes, avec des militants. J'ai mon avis. Je pense qu'on va toujours plus facilement chercher les électeurs les plus proches sur les valeurs. Voilà. Il y a rarement un revirement complet. On ne va pas chercher l'électeur le plus loin sur les valeurs en deux élections. Ça met beaucoup de temps. Donc ça, c'est mon avis, mais je ne veux pas y passer trop de temps, parce que sinon, en fait, on ne parle pas du quotidien des gens, du monsieur qui m'écrit pour me dire « moi, je suis adulte handicapé, je ne touche pas la prime de Noël, c'est dégueulasse », on ne parle pas de l'AESH qui dit « maintenant, j'ai 8 enfants à suivre, je cours sur 3 écoles ». Et en fait, on nous attend quand même beaucoup, beaucoup plus là-dessus que pour de savoir si c'est les tours et les bourgs. Vous voyez, je ne voudrais pas être démago, parce que... je me rends bien compte que c'est important qu'on en discute, mais j'ai l'impression qu'on en discute tellement qu'on ne fait pas le reste.
Alors parlons non pas du reste, mais de sujets que vous portez, vous, en tant que député.
Bravo.
Vous intervenez beaucoup sur la question des migrants.
Ouais.
Vous avez interpellé le gouvernement et Michel Barnier mardi dernier à l'occasion de la séance des questions au gouvernement que je diffusais en direct à ce moment-là. Il y a eu une séquence dont je voudrais qu'on parle. On va la regarder d'abord et on en parle juste après.
On écoute le gouvernement.
Merci pour votre question sur un sujet dont chacun mesure la gravité et qui doit être abordé sans esprit polémique.
Allez, la parole. S'il vous plaît, mes chers collègues, président.
Voilà des images d'LCP où vous voyez le groupe communiste et toute la gauche qui s'émeut, s'énerve que la personne au sein du gouvernement qui a répondu à la question, c'est le ministre chargé de la mer et de la pêche, sur une question qui portait sur le sort des migrants en général et sur le sort des migrants morts en mer en particulier. Des images fortes au cours de la séance des questions au gouvernement. Quelques minutes plus tard, plus loin dans la séance, Michel Barnier, le Premier ministre, a pris la parole sur une autre question, mais il a souhaité revenir sur l'incident et il a plaidé le malentendu, expliquant que, en fait, avant la séance, il avait eu de la part du groupe communiste l'intitulé de la question, que le gouvernement avait cru que la question portait sur les morts en mer spécifiquement et que c'est la raison pour laquelle ils avaient envoyé le ministre de la mer et de la pêche pour répondre parce que c'est son domaine. S'ils avaient su, sous-entendu, si on avait su que ça parlait des migrants en général, on aurait envoyé Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, chargé de la politique de l'immigration. Je voulais en revenir avec vous, Elsa Fossillon, qu'est-ce que vous pensez ? Parce que vous n'avez pas pu répliquer au Premier ministre.
On peut pas.
Qu'est-ce que vous auriez pu lui dire ?
Bah d'abord que Bruno Retailleau manquait quand même sacrément de courage et que ça illustrait le mépris qu'il avait pour les exilés qui meurent en mer. Parce qu'il avait un geste simple à faire, Bruno Retailleau, c'est de s'adresser au ministre chargé des relations avec le Parlement et dire visiblement il y a une confusion, je pense que c'est à moi de répondre. On parle des accords du Touquet. Parce que ça arrive, pour expliquer, hein, c'est vrai que les groupes transmettent. Et moi, j'ai pas, alors pour vous le dire, je n'ai pas encore été vérifié ce qui avait été transmis par mon groupe. Ce n'est pas mon équipe parlementaire, c'est le groupe qui transmet. Et il est tout à fait possible qu'ils aient dit sauvetage en mer, surtout que le lendemain, je déposais une proposition de résolution sur le sauvetage en mer Méditerranée.
Ils ont vu Elsa Fossillon, ils ont fait le rapprochement.
Exactement. Quand on a, normalement, les bons services du ministre en charge des relations avec le Parlement fait le taf et peut appeler aussi pour demander, préciser, etc. Et si on veut avoir une bonne réponse, d'ailleurs, on précise, parce que comme ça, on est sûr qu'il y a une réponse adéquate. Là, le truc, c'est que j'ai bien vu, moi, je le regardais, Retailleau, je le cite même dans
la question.
Dans la question. Il baisse la tête et il n'y a aucun moment où il se dit il va se faire pourrir mon collègue parce que c'est évident qu'il va se faire pourrir. Je ne dis pas que le sauvetage en mer, parce que je l'aborde dans la question, n'a rien à voir avec le ministre de la mer, même si c'est choquant d'entendre mer et pêche, hein, forcément.
Dans le contexte, oui, forcément.
Forcément. Mais là, très clairement, on parle des accords du Touquet, on parle des politiques migratoires, on parle des forces de l'ordre qui ont été, via des enquêtes journalistiques, accusées d'actes graves.
Peut-être expliquer ce que c'est les accords du Touquet,
ouais,
justement.
Oui, tout à fait. Les accords du Touquet, 2003, accord franco-britannique. Oui, qui, en gros, pour résumer, font en sorte que ce soit la France qui gère la frontière britannique aux frontières françaises, aux côtes. D'ailleurs, l'Angleterre donne beaucoup d'argent à la France pour gérer cette gestion des frontières.
Grillager, payer des agents, etc.
Des centres de rétention.
On nomme une externalisation.
Des centres de rétention, des forces de police, des barrières, des caméras. Alors, par exemple, il y a des villes de la côte française qui se retrouvent avec plein de caméras parce que c'est financé. Donc comme ça, ils disent à leurs électeurs ou électrices que vous voyez, il y a des caméras, sauf que y a des villes où il n'y a personne derrière les caméras. Donc il y a juste des caméras, par exemple.
C'est ironique.
Bon, voilà. Donc tout ça crée énormément de drames. Peut-être certains ont en tête ce qu'a été la jungle de Calais, puis la stratégie du zéro point de fixation, qui fait que pour que ne pas se réinstallent des très grands campements, toutes les 24 heures, à 6 heures du matin, les forces de l'ordre viennent et font en sorte que les campements soient dégagés. Ça peut se faire avec plus ou moins beaucoup de violence, avec des tentes lacérées, avec le fait de prendre les affaires des personnes qui sont là, qui se retrouvent dans un grand désœuvrement. On parle d'hommes, de femmes, d'enfants, beaucoup d'enfants. Et des ONG, des associations qui sont elles-mêmes entravées dans les aides qu'elles essayent d'apporter quand elles veulent apporter de l'eau, par exemple, il y a eu des coupures, enfin plein d'actes en tout cas.
Il n'y a pas des associations qui ont été poursuivies en justice que, sous prétexte, en gros, on leur a dit vous êtes des passeurs parce que vous donnez à boire et à manger, simplement.
Le délit de solidarité.
C'est vrai aussi, par exemple, d'SOS Méditerranée ou d'autres associations qui œuvrent en mer Méditerranée, tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui ne crèvent pas dans l'eau en traversant.
Me permets de rappeler un chiffre terrible. Au cours des 10 dernières années, 30 000 migrants sont morts ou disparus en mer, en Méditerranée.
Et on peut penser que c'est beaucoup plus.
On peut, oui.
Parce que c'est une estimation plutôt à la baisse. Il y a pas les disparus. Moi, je vais donner un autre chiffre. En 2013-2014, il y avait un navire, une opération de sauvetage qui était à l'époque financée par la seule Italie, qui s'appelait Mare Nostrum et qui naviguait en mer Méditerranée. Et à l'époque, en fait, en une année, entre 2013 et 2014, quand il y avait Mare Nostrum, ils ont sauvé 150 000 vies. Et Mare Nostrum s'est arrêté parce que certains dirigeants en Italie et ailleurs en Europe venaient expliquer qu'en fait, parce qu'il y avait des navires de sauvetage, eh bien, les gens traversaient. Parce que les gens se disaient, il y a un navire de sauvetage, c'est bon, je peux traverser, je peux prendre un radeau pneumatique sans gilet de sauvetage pour prendre la mer Méditerranée entre la Libye et Lampedusa, par exemple, ou d'autres lieux, ou l'Italie. Non, en fait, les gens ils traversent parce que c'est l'espoir d'une vie meilleure, parce qu'ils quittent la Libye où il se passe des atrocités. Ouais. Et pourtant, l'Union européenne a filé beaucoup d'argent à la Libye pour la gestion de ses frontières aussi, alors que les gardes-côtes libyens sont à la fois accusés de crimes contre l'humanité, mais qu'il y a aussi des milices chez les gardes-côtes libyens et dont on a vu des liens très proches avec les milices Wagner, par exemple. Donc en fait, les gens traversent quoi qu'il arrive.
Situation d'esclavage, de mise en
esclavage. Ils traversent quand il y a un mur au Mexique, ils traversent quand il y a la mer Méditerranée, ils traversent quand il y a la Manche. Et en fait, plus on militarise les frontières, il y aura autant de départs, voire plus, mais il y a juste plus de morts.
Alors, pour préciser votre action en tant que député sur ces sujets, vous avez déposé une proposition de résolution européenne pour la création d'une flotte de sauvetage en Méditerranée. Vous nous direz où en est ce projet de résolution. Et pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur la Manche, vous avez demandé la création d'une commission d'enquête sur les accords du Touquet. La commission d'enquête, c'est un processus parlementaire par lequel le Parlement peut mener une véritable enquête pour évaluer le fonctionnement ou non d'une politique publique. En l'occurrence, les accords du Touquet, 20 ans plus tard, on objective, on fait déposer des personnes, on enquête avec des documents, etc.
Et les responsables sont obligés, quand ils sont convoqués, sont obligés de venir devant une commission d'enquête.
Ils peuvent être poursuivis pour parjure, même si visiblement ça ne marche pas toujours. Puisque,
pas sur Aurore Berger.
Pas Aurore Berger. Elle échappe à ça. Une commission d'enquête, à la fois pour pouvoir évaluer, mais ça on aurait pu dire mission d'information, parce qu'on pourrait évaluer au travers d'une mission d'information qui ne relève pas de pouvoir d'enquête de l'Assemblée. Mais là, l'année dernière, en fait, même cette année, début d'année, il y a un consortium de journalistes qui a sorti une enquête sur ce qui se passe dans la Manche, avec des vidéos, avec des récits, des témoignages, et où on a vu des pratiques dénoncées de forces de l'ordre qui mettaient clairement en danger la vie de migrants qui tentaient de traverser. On ne peut pas, on n'a pas le droit, y compris dans le droit de la mer, de s'approcher et de tenter de faire chavirer en allant trop vite autour d'une navigation de fortune, d'autant plus si les gens n'ont pas de gilet de sauvetage. On ne met pas des gaz lacrymogènes sur des gens qui sont sur des bateaux et qui sont déjà affolés. Et donc tout ça, c'est des pratiques extrêmement dangereuses et qui ont été dénoncées. Et nous, par la commission d'enquête, on souhaite aussi pouvoir demander quels sont les ordres qui sont donnés, quels circulaires encadrent ce travail. Quelles sont les difficultés, y compris rencontrées parfois par les forces de l'ordre, pour pouvoir répondre aux ordres qui sont donnés par les différents ministères, et aussi voir les assauts, ce qu'elles vivent, etc. Donc voilà pourquoi on veut une commission d'enquête, et elle nous semble vraiment, pour le coup, très légitime.
Et l'idée, c'est aussi l'intérêt des commissions d'enquête, c'est qu'elles sont filmées, elles peuvent être diffusées. Alors, pas tout le monde, on peut demander aussi à ne pas être dans les diffusions, mais l'idée, c'est de créer aussi un moment médiatique, c'est ça ?
Bien sûr,
c'est quand même difficile dans le paysage médiatique tel qu'il est maintenant. Vous imaginez ce dont on va parler après, ce qu'on va dire, vous voulez plus de migrants, vous êtes du côté des passeurs. C'est difficile dans un climat médiatique comme ça.
C'est nécessaire, oui.
Ouais, moi, ça me semble nécessaire parce que je rêve du moment où on va par exemple appeler Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, dans cette commission d'enquête, et on va pouvoir lui poser plein de questions.
Qui est eurodéputé du Rassemblement national.
Il faut savoir que
non, mais c'est important. Enfin, c'est
il est enfin
Frontex, c'est l'agence européenne de protection des frontières, c'est-à-dire de gestion de l'immigration aux frontières de l'Union.
C'est ça.
Mais pour préciser,
il est devenu eurodéputé.
J'ai compris votre question.
Oui, mais je vais aller plus loin parce que ces questions qui sont des questions de droits de l'homme, en fait, sont des questions de droits humains et de liberté fondamentale, etc. Il n'y a pas longtemps, donc du coup, je fais aussi le rapprochement avec la proposition du gouvernalisme sur le fait de passer l'apologie du terrorisme du droit pénal au droit de la presse, comme c'était le cas avant. Cette proposition-là, quand j'ai entendu Fabien Roussel sur le plateau de C'est à vous réagir en disant « Oui, mais ça, c'est les grands trucs, ça n'intéresse pas les gens, c'est pas les bonnes priorités, les priorités, c'est de parler d'emploi, c'est de parler de travail. » Voilà, donc Fabien Roussel lui-même pourrait vous dire « Écoutez, les migrants, d'accord, mais enfin, la priorité des gens, c'est le travail, c'est l'emploi, c'est ce qu'il y a à manger à la fin du mois. »
Alors peut-être qu'on va réussir un jour à parvenir sur un consensus sur la question, y compris avec Fabien Roussel. En tout cas, je vais essayer de convaincre. Alors, ce qui est vrai, c'est quand on regarde, par exemple, l'enquête récente, le rapport du CESE, du Conseil économique, social, environnemental, sur les priorités des Français, l'immigration arrive très loin derrière les questions d'emploi, de santé, de pouvoir d'achat, d'environnement. Et je dirais que c'est tant mieux, parce que ça veut dire que ce n'est pas ce qui les préoccupe le plus. Dans le même temps, ce qui est fou, c'est que si on regarde sur les chaînes de télé, les chaînes d'info, la proportion aussi dans les discours politiques du thème de l'immigration, alors il est extrêmement prépondérant. Et on le voit bien là, par exemple, le Rassemblement national, il est en train de dealer avec Barnier motion de censure ou pas motion de censure, sur quoi ? Sur l'aide médicale d'État. Est-ce qu'on enlève, on abroge le système de retraite ? Si on met une taxe pour les plus riches pour financer la santé à l'hôpital. Non. Est-ce qu'on supprime des soins hyper importants pour des personnes qui vivent sur notre territoire, donc à la fois pour leur dignité, mais pour notre santé à tous ? Et sur l'AME, 25% des bénéficiaires sont des enfants. Donc on est vraiment dans le dégueulasse du dégueulasse quand on souhaite restreindre les soins de l'AME.
Sachant que budgétairement, en plus, ça ne tient pas.
C'est rien, c'est 0,5% des milliard, dépenses de santé.
Oui, un milliard, fourchette très très
peanuts.
Haute.
Et plus on baisse l'AME, et plus on dépense de santé.
Donc vraiment, c'est comment, une fois de plus, politique du bouc émissaire. Oui. Mais pour répondre à la question, donc il y a d'un côté, ce n'est pas une priorité, et de l'autre, en fait, c'est instrumentalisé à outrance par une grande part de l'échiquier politique. Donc on est bien obligé de traiter la question. D'accord. Parce que
il y a un contre-discours.
Moi, je ne vois pas comment... parce que plus on les laisse, plus c'est le discours de la submersion migratoire, le discours de les ONG sont des passeurs, le discours de les étrangers nous piquent le boulot, etc. Donc moi, je suis pour apporter un contre-récit à ça, et un contre-récit qui permet d'envisager des solutions. Parce que je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas un discours tout à fait habituel à gauche, mais les habitants, par exemple, sur les côtes du Pas-de-Calais, c'est invivable pour eux. Hein. Mais moi, à chaque fois que j'y vais, vous avez des barbelés partout. Le matin, il y a des plages magnifiques dans le Pas-de-Calais. Il y a des gens, ils font leur footing, etc. Le matin, en fait, c'est pas la plage qu'ils voient. C'est des policiers partout. C'est
des morts.
Parfois des morts. Des enfants trempés qui sont sur les routes. Enfin, c'est vivable pour personne. C'est d'abord pas vivable, évidemment, pour les exilés, mais c'est vivable pour personne.
Je précise qu'il y a une douzaine de maires de la COP d'Opale qui demandent la renégociation des accords du Touquet.
Exactement, et qui disent priorité à l'humanitaire et à la prévention plutôt qu'à des places de centres de rétention. Donc, je pense qu'il faut réussir à organiser ce contre-récit aussi en montrant ce qui est possible de faire. Donc, pourquoi on révise les accords du Touquet ? Comment on organise cet accueil ? De plus en plus, par exemple, aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Oui, il faut des voies légales sûres de passage, parce que sinon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que c'est des morts, mais on n'y arrivera pas parce que, à force de foutre des barbelés, à force de mettre des moyens de police concentrés là plutôt qu'ailleurs, en réalité, ça ne convient à personne, tout ça. »
Je reviens sur la question qui a été abordée rapidement. La France Insoumise a provoqué la polémique en proposant l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée sur le fond ?
Sur le fond, on voit bien qu'en tout cas, il y a creusé parce qu'il y a un énorme problème. Bon, Hugo Bernalicci a cité plusieurs exemples. Ce qui est vrai, c'est que le camarade de la CGT qui, il y a quelques mois, a été accusé condamné à un an avec sursis sur des propos qui étaient jugés comme apologie du terrorisme.
Pour un tract.
Pour un tract.
C'est un tract de la CGT.
Pour un tract. Bon, il s'est en tout cas identifié comme étant l'auteur du tract. Donc c'est lui qui a été condamné. Et puis surtout, on a, et c'est peut-être important de le rappeler, un nombre aujourd'hui de signalements depuis le 7 octobre sur apologie du terrorisme qui est presque plus important que la période 2015, qui est celle pour laquelle le délit avait été renforcé.
Il y a certaines associations pro-israéliennes.
Alors que c'était pour lutter contre, en gros, c'est pas le bon mot, pas le prosélytisme djihadiste, pardon, je cherche le bon terme, mais en gros, la propagande djihadiste sur les réseaux qui, à cette période-là, on le voyait, en tout cas, finissait par engranger beaucoup de monde. Et donc, c'est quand même fou de se dire qu'un truc créé à ce moment-là, aujourd'hui, connaît plus de signalements depuis le 7 octobre qu'en 2015, au moment du plus fort des campagnes djihadistes. Et donc, sur le fond, moi, j'ai un accord. On ne peut pas faire en sorte qu'il y ait un dévoiement à ce point du texte de 2014.
Et si je peux me permettre juste un élément de contextualisation, puisqu'on a interviewé dans l'Humanité Marc Trividic, qui est un ancien juge
antiterroriste,
qui, à l'époque, lui avait poussé pour que l'apologie du terrorisme passe dans le code pénal. Et aujourd'hui, il nous dit, Marc Trividic, que c'était une connerie.
Qu'il
faut revenir en arrière, parce qu'aujourd'hui, on peut être condamné pour apologie du terrorisme parce qu'on a soutenu la Palestine. Mais par contre, quand on fait l'apologie de ce qui se passe à Gaza, il n'y a aucune poursuite. Et il dit qu'il faut avoir un courage politique de revenir en arrière.
Oui, mais je suis pleinement d'accord avec lui. Puis on voit bien comment c'est utiliser ceux qui font les signalements et qui se constituent partie civile. En fait, ils viennent mener une politique via le droit. Et donc, c'est en ça que c'est un dévoiement complet. Et puis, on voit bien comment toutes les tentatives aujourd'hui pour venir, dès qu'on défend la Palestine et le droit des peuples à l'autodétermination des peuples, être accusés d'antisémitisme, ça vient se mêler à ça. Donc, ça ne va pas. Après, je vois bien le tollé suscité qui, à mon avis, recoupe un débat peut-être plus large sur comment aujourd'hui l'AFI lutte elle-même contre sa marginalisation et son écartement quelque part du champ républicain.
Il y a un mauvais timing ?
Mais je ne sais pas si c'est qu'une histoire de timing ou de méthode ou un problème peut-être plus profond et qui est celui comment aujourd'hui la France insoumise est en capacité de lutter contre les tentatives de marginalisation qui sont faites par le bloc central, mais aussi par tout un champ de l'échiquier politique aujourd'hui. On a bien vu, aujourd'hui, la Macronie, elle décrit plus la France insoumise que le Rassemblement national. C'est un énorme problème. Comment l'AFI elle-même est en capacité, évidemment, de ne rien céder, mais en même temps de lutter contre cette marginalisation, parce que ce que je constate, c'est que ça peut porter ses fruits aussi.
Oui.
Elle tombe bâton pour se faire battre. Ce genre de proposition, c'est ça que je voulais dire. Léa.
Moi, je voulais qu'on revienne justement. Vous parliez de Palestine. Je voulais qu'on revienne sur le mandat d'arrêt contre Netanyahou qui a été émis par les juges de la CPI et la réaction du corps diplomatique français et en l'occurrence du ministère des Affaires étrangères et les précisions du président de la République par ailleurs. On voit que la France cherche à faire jouer l'humanité. L'immunité, c'est pas facile comme mot, pour Netanyahou. Du coup, en considérant que finalement la France peut se déroger à ses obligations du statut de Rome, en étant signataire du statut de Rome, qui reconnaît du coup la compétence de la CPI sur son territoire, et que c'est un argument qui a été utilisé notamment par la Chine à l'égard de Poutine, pour dire finalement Poutine peut venir chez nous, puisque de toute façon la Russie n'est pas membre, n'a pas ratifié le statut de Rome, donc ça ne s'applique pas à Poutine.
Si tu ne reconnais pas la justice, il n'y a pas de justice.
C'est ça, exactement.
Ça on peut est, donner on, des indications à des
on est globalement dans un contexte de fragilisation du droit international qui est quand même assez inquiétant. Dans quelle mesure vous pensez que la France a une responsabilité avec cette décision dans la fragilisation globale du droit international ?
Ah, c'est une bonne question. D'ailleurs, petit moment d'autopromo, mais le groupe GDR en janvier aura un moment de débat à l'Assemblée nationale sur comment la France organise quelque part. Est-ce que c'est l'effondrement du droit international en France, quoi ? Est-ce qu'on n'y participe pas ?
Ouais. Le groupe GDR, c'est votre groupe, le groupe de la gauche démocrate et républicaine.
Merci.
Où siègent les communistes et des députés ultramarins.
Exactement. Et donc, je sais pas, j'étais affligée quand j'ai vu le communiqué hier. Puis c'est, au-delà d'être affligée, moi, je suis triste quand mon pays prend ce genre de position, quoi. Enfin, vraiment, c'est, je pense que c'est les moments où je me sens le plus à vouloir être, alors le terme est aujourd'hui terrible, mais une forme de patriotisme, où je me dis, mais comment on peut dire
vous
ce genre de choses.
Vous sentez patriote enraciné? Toute petite blague du début d'émission.
C'est une private joke.
Désolée. Okay, okay.
Apparemment, c'était dans le deal pour obtenir un cessez-le-feu au Liban.
Ouais, mais c'est terrible. Bon, d'abord, c'est une négation du droit international, parce que justement, le droit international, il est là pour dire t'as pas d'immunité, il y a pas d'impunité. Il est là pour faire ça. Ça augmente le sentiment qu'il n'en est pas qu'un de deux poids deux mesures, parce que pour Poutine, on le dit pas, et quand c'est Netanyahou, collier d'immunité. Enfin, terrible, vraiment terrible sur les effets que ça peut produire. Et ensuite, ce qui est terrible aussi, c'est que l'idée qu'on sacrifierait un peuple pour un autre, parce qu'on s'en fiche de la vie des Palestiniens. Enfin, ça commence à devenir un peu une marotte, mais enfin. Et ensuite, ça veut dire aussi qu'on considère que la paix peut s'obtenir sans justice, en disant ça.
Et le mépris des institutions internationales, ouais, le mépris ça. Du procureur général, Karim Khan, qui a fait un énorme travail, qui a été d'ailleurs, qui a dénoncé les pressions d'Israël auprès des juges de la CPI, lorsqu'il il a demandé à ce que les juges de sa juridiction se prononcent sur ce mandat d'arrêt au mois de mai, il a fait une conférence de presse en demandant et en mettant en garde Israël sur les potentielles pressions auprès des juges. Enfin, c'est quand même assez grave. Et d'ailleurs, la précédente procureure aussi de la CPI avait eu des pressions d'Israël lorsqu'elle avait reconnu que la Palestine pouvait effectivement saisir la Cour. Donc c'est quand même très inquiétant. Enfin, moi, je trouve que message est archi flippant.
Ben c'est flippant parce qu'on a quand même laissé bien seul des pays comme l'Afrique du Sud pouvoir saisir la Cour de justice. Que là, quand y compris, il y a une position sur laquelle on a juste à dire bah, OK, enfin, on reconnaît la Cour pénale internationale. Le droit international, c'est au-dessus
nos obligations.
C'est nos obligations, c'est au-dessus de notre droit à nous. Et juste, ben, on dit OK. et en plus, on s'isole parce qu'on est quand même un des seuls pays à dire il y a immunité.
Avec l'Allemagne.
Et donc pour vous, c'est l'abandon total de la France reconnaissance notamment de l'État palestinien.
C'est sûr que ça donne pas confiance. Et puis ça donne pas confiance non plus parce qu'en fait, sur n'importe quelle autre suite, comment on peut se positionner nous-mêmes comme des acteurs importants pour travailler au travail de justice et de paix pour la suite quand on n'a pas reconnu ni défendu comme boussole le droit international. Donc en fait, c'est un affaiblissement considérable de la France sur la scène diplomatique, sur la scène politique, pour pouvoir être un acteur de paix. Et y compris, ça ne concernera pas que la zone Liban-Palestine. C'est que quand on fait ce genre de choses, quand c'est à géométrie variable, alors on n'est plus crédible nulle part. Donc moi, j'en appelle plutôt aujourd'hui la diplomatie française et Emmanuel Macron à respecter le droit international pour pouvoir être des acteurs efficaces de paix.
Donald Trump a été réélu président de la République. Je ne vous l'apprends pas, hein, vous le saviez. Mais...
Sans transition.
Sans transition, Donald Trump. Et voilà, le retour du Trump. Qu'est-ce que vous pensez des efforts que font un certain nombre de pays européens pour s'autonomiser de la tutelle de l'OTAN en s'armant eux-mêmes pour défendre leurs frontières, notamment du côté ukrainien? C'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que les communistes ont toujours été hostiles à l'atlantisme, au traité transatlantique, à l'OTAN. Les communistes ne sont pas non plus des fanatiques de Poutine, loin de là, il ne s'agit pas de jouer à ça. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Si l'OTAN arrête de nous protéger, est-ce qu'il faut qu'on se protège nous-mêmes?
D'autant qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les pro-américains qui encouragent l'Europe à faire une armée européenne, à s'armer elle-même, puisque les Américains ont envie de se désengager, on ne paye pas assez pour notre défense, bah, très bien. Surtout avec un Trump qui arrive. Donc oui, en effet, oui.
Elle est bonne, ma question.
Ben, elle est bien.
Elle est très bonne. Et
c'est paradoxal.
Je vais le dire, je pense qu'elle nous place devant une difficulté immédiate. Ouais. Voilà. Elle nous place devant une difficulté immédiate parce qu'en fait, ça interroge un peu un rapport au monde et une organisation mondiale dans laquelle, évidemment, on a un peu du mal à se retrouver aujourd'hui et à pouvoir dire... Ben demain, il faut qu'on arrête de fonctionner sous domination tout le temps, enfin, en tout cas en plaçant tout le monde, tentant de placer tout le monde sous domination, en étant en concurrence permanente, en organisant uniquement nos rapports sur des questions économiques ou militaires. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je me rends bien compte que ça ne répond pas à la question, ouais. À la question immédiate de comment on va faire en sorte de protéger les Ukrainiens une fois que Trump va avoir complètement tout lâché. Après, honnêtement, savoir ce que Trump va faire exactement demain...
Même lui,
je ne sais pas exactement. Donc même les plans qu'on pourrait tirer sur la comète sur demain, quand on a Trump président des États-Unis, je ne sais pas exactement. J'entends ceux qui disent il faut que ça renforce l'Europe. Mais pareil, ça, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi renforcer l'Europe ? Est-ce que c'est renforcer l'Europe militairement ou est-ce que c'est renforcer une Europe qui, sur la scène mondiale, est un acteur qui n'est pas un acteur simplement qui joue la concurrence, mais qui est un acteur aussi qui, par son progrès humain, etc., est en capacité, pas simplement d'être attractif, mais d'être attrayant et d'être en capacité de peser sur l'ordre du monde. Enfin, franchement, je trouve que la question, elle mériterait presque qu'on oui. soit une nouvelle émission, tellement le sujet me semble large, difficile, et y compris, je trouve qu'il se mènerait mieux encore avec... j'ai bien envie de le mener en débat, parfois en confrontation.
On va y réfléchir.
Ouais.
On va y réfléchir.
La fille qui se place pour une prochaine émission.
Vous voulez qui en face ?
Vous êtes Bernard Guetta. Vous êtes libre le jeudi non, bref.
Dans 8 mois, du coup. Ouais, parce que,
non, on verra. On verra. Il est l'heure, Elsa Faucillon, il est l'heure de retourner dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour les dernières heures de débat sur la proposition de loi de la France insoumise d'abrogation.
Souhaitez-nous un peu de force quand même.
De la réforme des retraites. Vous avez combien d'amendements ? Encore ?
Quand je suis partie, il en restait 630 environ.
En deux heures, c'est faisable.
Pilou, hein.
C'est évidemment pas faisable. Il n'y aura très probablement pas de vote d'ici minuit. Merci beaucoup, Elsa Faucillon, d'être venue sur le plateau de Vaxit. Merci à notre invité politique.